Chapitre 11. À bord du Poudlard Express. Lorsque Harry se réveilla le lendemain matin, il régnait dans la maison une triste atmosphère de fin de vacances. Une pluie drue continuait de marteler les carreaux tandis qu'il s'habillait d'un jean et d'un pull. Il fallait attendre d'être à bord du Poudlard Express pour se changer et mettre la robe de sorcier qu'il devait porter au collège. Fred, George, Ron et lui descendirent prendre leur petit déjeuner. Au moment où ils arrivaient au premier étage, Madame Wesley apparut au pied de l'escalier, l'air exaspéré. « Arthur ! Arthur, un message urgent du ministère !» Harry se plaqua contre le mur pour laisser passer M. Wesley qui surgit de sa chambre à pas précipiter, sa robe à l'envers et disparut dans l'escalier. Lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine, ils virent Madame Wesley fouiller fébrilement les tiroirs du buffet. Et M. Wesley penché devant le feu de la cheminée en train de parler à... Harry ferma les yeux et les rouvrit pour être sûr qu'il ne le trahissait pas. La tête d'Amos Diggory était posée au milieu des flammes comme un gros œuf barbu. Il parlait très vite, indifférent aux étincelles qui volaient devant lui et au feu qui lui léchait les oreilles.
« Les voisins moldus ont entendu des explosions et des cris. Alors ils ont fait venir les, comment on appelle ça déjà, les chantes d'âmes, c'est ça, Arthur? Il faut absolument que tu ailles là-bas. »
« Ah, la voilà !» dit Madame Wesley, le souffle court, en donnant à M. Wesley un morceau de parchemin, une bouteille d'encre et une plume froissée.
« C'est vraiment un coup de chance que j'en ai entendu parler, » dit la tête de M. Diggory. « Je devais aller au bureau de bonne heure pour envoyer deux ou trois hiboux et je suis tombé sur les gens du service des usages abusifs de la magie qui partaient sur place. Si jamais Rita Skeeter apprend ça, Arthur !»«
Qu'est-ce qui s'est passé, d'après Folleuil ?» demanda M. Wesley. Il dévissa le couvercle de la bouteille d'encre, remplit sa plume et se prépara à noter. La tête de M. Diggory roula les yeux.
Il dit qu'il a entendu quelqu'un s'introduire dans son jardin et s'approcher de sa maison, mais que ses poubelles l'ont arrêté.
« Qu'est-ce qu'elles ont fait, les poubelles ?» demanda M. Wesley en écrivant précipitamment.
« Elles ont fait un bruit d'enfer et ont jeté des ordures partout. Apparemment, l'une d'elles était encore en train de lancer des déchets à l'arrivée des gens de dame. »
M. Wesley poussa un grognement. « Et la personne qui a essayé d'entrer ?»«
Arthur, tu connais Folleuil ?»
dit la tête de M. Diggory en roulant à nouveau les yeux.
« Tu imagines quelqu'un s'introduisant dans son jardin en pleine nuit. J'ai plutôt l'impression quelle heure qu'il est. Il doit y avoir un chat complètement hagard, couvert d'épluchures de pommes de terre, qui erre quelque part sans comprendre ce qui lui est arrivé. Mais si le service des usages abusifs de la magie met la main sur Folleuil avec le dossier qu'il a, son compte est bon. Il faut absolument le tirer de là et réduire l'affaire à un délit mineur, quelque chose qui dépende de ton département. Ça va chercher dans les combien, les poubelles explosives ?»
« On peut régler ça avec un simple avertissement, » répondit M. Wesley en écrivant très vite, le front plissé.
« Folleuil n'a pas fait usage de sa baguette magique? Il n'a attaqué personne ?»«
J'imagine qu'il a dû sauter de son lit et jeter des sorts sur tout ce qu'il pouvait atteindre depuis sa tête, mais ils auront du mal à le brouiller. Il n'y a aucun blessé. »«
Très bien. J'y vais, » dit M. Wesley. Il fourra son morceau de parchemin dans sa poche et se roula hors de la cuisine. La tête de M. Diggory tourna les yeux vers Mme Wesley.
« Excusez-moi pour tout ce dérangement, Molly. »
dit-il plus calmement.
Venir vous importuner si tôt le matin, mais Arthur est le seul qui puisse sortir Folleuil de ce mauvais pas, et comme Folleuil doit commencer son nouveau travail aujourd'hui. Oh, quelle idée d'aller faire toute cette histoire-là avec.
Ce n'est pas grave, Amos, assura Madame Wesley. Vous ne voulez pas un petit toast avant de partir?
Pourquoi pas, après tout, dit M. Diggory.
Madame Wesley prit un morceau de toast beurré, le saisit avec les pincettes et le mit dans la bouche de M. Diggory.
« Murphy !» dit celui-ci d'une voix étouffée.
Puis avec une petite détonation, pouf, il disparut. Harry entendit M. Wesley dire précipitamment au revoir à Bill, Charlie, Percy et les filles. 5 minutes plus tard, il était de retour dans la cuisine, sa robe à l'endroit, passant un peigne dans ses cheveux.
« Je ferai bien de me dépêcher. Je vous souhaite une bonne rentrée, les garçons, »
dit-il à Harry et à ses fils. Il mit une cape sur ses épaules et se prépara à transplaner.
« Molly, tu pourras te débrouiller pour emmener les enfants à King's Cross ?»«
Bien sûr, » répondit Mme Wesley. « Va vite t'occuper de Folleuil. Tout ira très bien pour nous. » Au moment où M. Wesley disparaissait, Bill et Charlie entrèrent dans la cuisine. « Quelqu'un a parlé de Folleuil ?» demanda Bill. « Qu'est-ce qu'il a encore fait ?»« Il a dit que quelqu'un a essayé de s'introduire chez lui la nuit dernière, » répondit Mme Wesley. « Maugré Folleuil ?» dit Georges d'un air songeur en étalant la marmelade sur un toast. « C'est pas ce cinglé. Ton père a beaucoup d'estime pour lui, » dit Mme Wesley d'un ton grave.
« Oui, d'accord, mais papa collectionne bien les prises de courant, non ?»
dit Fred à voix basse tandis que Mme Wesley sortait de la cuisine.
« Qui se ressemble, s'assemble. Maugré a été un grand sorcier en son temps.
dit Bill. C'est un vieil ami de Dumbledore, je crois, dit Charlie. Justement, Dumbledore n'est pas vraiment quelqu'un qu'on pourrait qualifier de normal, déclara Fred. Je sais bien que c'est un génie, mais... Qui est Folleuil ? Demanda Harry. Il est à la retraite maintenant. Avant, il travaillait pour le ministère, expliqua Charlie. Je l'ai rencontré une fois quand j'ai commencé à travailler avec papa. C'était un aurore, l'un des meilleurs, un chasseur de mages noirs, ajouta-t-il en remarquant le regard interrogateur de Harry. La moitié des prisonniers d'Azkaban sont là-bas grâce à lui. Mais bien sûr, il s'est fait des quantités d'ennemis, surtout les familles des gens qu'il a capturés. Et j'ai entendu dire qu'il était devenu nettement paranoïaque sur ses vieux jours. Il ne fait plus confiance à personne, il voit des mages noirs partout. Bill et Charlie décidèrent de les accompagner à la gare de King's Cross, mais Percy, se répandant en excuses, déclara qu'il devait absolument aller travailler. « Je ne peux vraiment pas me permettre de prendre du temps libre en ce moment, » leur dit-il. « Monsieur Croupton compte de plus en plus sur moi. »« Tu sais quoi, Percy ?» dit George très sérieusement. « Un de ces jours, il finira par savoir ton nom. » Madame Wesley avait courageusement affronté le téléphone au bureau de poste du village et avait commandé 3 taxis moldus pour les conduire à Londres.
« Arthur a essayé d'emprunter des voitures au ministère, » murmura Madame Wesley à l'oreille de Harry, « mais il n'y en avait plus. »
Debout, devant la porte de la maison, ils attendaient sous la pluie que les 3 chauffeurs hissent les valises et les malles dans leur voiture.
« Oh là là, ça, ils n'ont pas l'air très contents, » remarqua Madame Wesley.
Harry répugnait à expliquer à Madame Wesley que les chauffeurs de taxi moldus avaient rarement l'occasion de transporter dans leur voiture des hiboux surexcités. Or, Coxigrue faisait un vacarme infernal et l'atmosphère ne se détendit guère lorsque la malle de Fred s'ouvrit d'un coup en provoquant l'explosion de plusieurs pétards mouillés du docteur Flibuste. Le chauffeur poussa un cri horrifié qui se transforma en hurlement de douleur quand Patin Rond, pris de panique, lui grimpa le long de la jambe, toute griffe dehors. Le trajet fut très inconfortable. Ils étaient en effet coincés à l'arrière des taxis avec leurs bagages qui occupaient une bonne partie de l'espace. Patin Rond mit un certain temps à se remettre de la frayeur causée par l'explosion des pétards, et lorsqu'ils arrivèrent à Londres, Harry, Ron et Hermione avaient reçu chacun une bonne quantité de coups de griffe. Aussi furent-ils grandement soulagés de sortir enfin des voitures devant la gare de King's Cross, même si la pluie qui tombait plus fort que jamais les trempa jusqu'aux os pendant qu'ils traversaient la rue, chargés de leurs bagages. Harry était habitué à emprunter le quai de la voie 9 3/4. Il suffisait d'avancer droit sur la barrière apparemment solide qui séparait les voies 9 et 10. La seule difficulté, c'était de le faire discrètement pour ne pas attirer l'attention des moldus. Ce jour-là, ils se rassemblèrent par groupes. Harry, Ron et Hermione, qu'on remarquait plus que les autres à cause de Coxigrue et de Patin Rond, passèrent les premiers. Ils s'appuyèrent d'un air désinvolte contre la barrière, en bavardant avec insouciance, et glissèrent imperceptiblement au travers pour se retrouver aussitôt sur le quai 9 3/4. Le Poudlard Express, avec sa locomotive à vapeur d'un rouge étincelant, était déjà là, projetant les panaches de fumée qui transformaient les élèves et les parents présents sur le quai en silhouettes sombres et fantomatiques. Lorsqu'il entendit les autres hiboux ululer dans les tourbillons de vapeur, Coxigrue se mit à piailler plus fort que jamais. Harry, Ron et Hermione cherchèrent des places assises et trouvèrent un compartiment libre au milieu du convoi. Ils rangèrent leurs bagages, puis redescendirent sur le quai pour dire au revoir à Madame Wesley, ainsi qu'à Bill et à Charlie. « On se reverra peut-être plus tôt que tu ne le penses, » dit Charlie avec un sourire en serrant Ginny dans ses bras. « Pourquoi ?» demanda Fred avec curiosité. « Tu verras. » répondit Charlie. « Mais surtout, ne dis pas à Percy que je vous en ai parlé. Après tout, c'est une information classée confidentielle jusqu'à ce que le ministère décide de la rendre publique. Moi, j'aimerais bien retourner à Poudlard cette année, » dit Bill, les mains dans les poches, en regardant le train d'un air presque nostalgique. « Pourquoi ?» demanda Ron d'un ton impatient.
« Vous allez avoir une année vraiment intéressante, » dit Bill, les yeux brillants. « Peut-être même que je prendrai un peu de temps libre pour venir voir ça. »« Voir quoi ?» insista Ron. « Mais à ce moment... » Un coup de sifflet retentit et Madame Wesley les poussa vers le train. Les 3 amis se hâtèrent de monter dans leur wagon, refermèrent la portière et se penchèrent à la fenêtre. « Merci de nous avoir invités chez vous, Madame Wesley, » dit Hermione. « Oui, merci pour tout, Madame Wesley, » ajouta Harry. « C'était un plaisir, mes chéris, » répondit Madame Wesley. « Je vous inviterai bien à revenir pour Noël, mais bon, j'imagine que vous préférerez rester à Poudlard avec tout ça.
« Maman !» s'exclama Ron d'un ton agacé. « Qu'est-ce que vous nous cachez tous les 3 ?»«
Vous le saurez certainement ce soir, » dit Madame Wesley en souriant. « Vous allez voir, ce sera passionnant. Je suis bien contente qu'ils aient modifié les règles. »«
Quelles règles ?» demandèrent d'une même voix Harry, Ron, Fred et George.
« Le professeur Dumbledore vous expliquera tout, j'en suis sûr. Et ne faites pas de bêtises, n'est-ce pas ?»
N'est-ce pas, Fred ? Et toi, George ? Les pistons émirent un sifflement sonore et le train s'ébranla. « Dis-nous ce qui doit se passer à Poudlard !» cria Fred à la fenêtre, tandis que les silhouettes de Madame Wesley, de Bill et de Charlie s'éloignaient d'eux. « Qu'est-ce qu'ils ont changé comme règle ?» Mais Madame Wesley se contenta de sourire en agitant la main, et avant que le train eût franchi le premier virage, Bill et Charlie avaient transplané. Harry, Ron et Hermione retournèrent dans leur compartiment. La pluie dense, qui s'écrasait contre les vitres, ne permettait pas de voir grand-chose du paysage. Ron ouvrit sa malle, sortit sa robe violette et en entoura la cage de coxigrue pour étouffer ses ululements.
Verpet était prêt à nous dire ce qui allait se passer à Poudlard, grommela-t-il avec mauvaise humeur en s'asseyant à côté de Harry. À la Coupe du Monde, tu te souviens? Mais ma propre mère refuse de me dire quoi que ce soit. Je me demande ce...
Chut, murmura soudain Hermione, un doigt sur les lèvres, un autre pointé vers le compartiment voisin. Tendant l'oreille, Harry et Ron entendirent une voix traînante et familière qui leur parvenait par la porte ouverte.
« En fait, mon père avait envisagé de m'envoyer faire mes études à Durmstrang plutôt qu'à Poudlard. Le directeur est un de ses amis. Vous savez ce qu'il pense de Dumbledore. Ce type adore les sandbourbes. Et Durmstrang ne laisse pas entrer ce genre de racaille. Mais ma mère n'aimait pas l'idée que j'aille faire mes études dans un endroit éloigné. » « Mon père pense que Durmstrang a une position beaucoup plus sensée en ce qui concerne la magie noire. Là-bas, les élèves l'étudient. Non pas ces cours idiots de défense contre les forces du mal qu'on est obligé de subir à Poudlard. »
Hermione se leva, traversa le compartiment sur la pointe des pieds et ferma la porte, faisant taire la voix de Malfoy.
« Alors comme ça, je pense qu'il aurait été mieux à Durmstrang, » dit-elle avec colère. « J'aurais préféré qu'il y aille, ça nous aurait évité de l'avoir sur le dos. »
« Durmstrang est une autre école de sorcellerie ?» demanda Harry.
« Oui, » répondit Hermione d'un air dédaigneux, « elle a une horrible réputation. D'après le guide des écoles de sorcellerie en Europe, elle accorde beaucoup plus d'importance à la magie noire. »«
Je crois que j'en ai entendu parler, » dit Ron d'un ton vague.
« Où est-elle ? Dans quel pays ?»«
Personne ne le sait vraiment, » répondit Hermione en haussant les sourcils.
« Et pourquoi ?» s'étonna Harry. Il y a toujours eu une tradition de rivalité entre toutes les écoles de sorcellerie. Durmstrang et Beaubaton ne veulent pas révéler l'endroit où elles se trouvent pour que personne ne puisse leur voler leurs secrets, expliqua Hermione.
Qu'est-ce que tu racontes ? Dit Ron en éclatant de rire.
Durmstrang doit avoir à peu près la même taille que Poudlard. Comment peut-on cacher un grand château comme ça ?
Justement, Poudlard est caché, répondit Hermione d'un air surpris.
Tout le monde le sait, en tout cas ceux qui ont lu l'histoire de Poudlard.
Tu es donc la seule à le savoir, répliqua Ron. « Alors explique-moi comment on fait pour cacher un endroit comme Poudlard. »
Le château est ensorcelé. Si un moldu le regarde, il ne verra qu'une vieille ruine moisie avec un écriteau au-dessus de l'entrée qui signale défense d'entrée, danger. Durmstrang apparaît aussi comme un tas de ruines à ceux qui n'en font pas partie.
« C'est possible, » dit Hermione en haussant les épaules.
« Ou peut-être qu'ils l'ont entouré d'un sortilège repousse moldu, comme le stade de la Coupe du Monde. Mais pour empêcher les autres sorciers de le trouver, ils l'ont sans doute rendu incartable. » Pardon ? Grâce à certains sortilèges, un édifice peut devenir impossible à indiquer sur une carte. Tu comprends ?
Si tu le dis, admit Harry.
À mon avis, Durmstrang doit se trouver quelque part dans le Grand Nord, reprit Hermione d'un air songeur, dans un endroit très froid, parce que leurs uniformes comportent des capes de fourrure.
Oh, imagine un peu, dit Ron, le regard rêveur.
Il aurait été si facile de pousser Malfoy en haut d'un glacier en faisant passer ça pour un accident. Ah, dommage que sa mère tienne tellement à lui.
À mesure que le train poursuivait sa route vers le nord, la pluie tombait de plus en plus drue. Le ciel était si noir, la buée si épaisse sur les vitres, qu'on avait dû allumer les lanternes. Le chariot à friandises passa en tintinabulant dans le couloir et Harry acheta une bonne quantité de fondant du chaudron. Au cours de l'après-midi, plusieurs de leurs amis vinrent les voir dans leur compartiment, notamment Seamus Finnegan, Dean Thomas et Neville Londubat, un garçon au visage rond extrêmement étourdi, qui avait été élevé par sa grand-mère, une redoutable sorcière. Seamus portait toujours sa rosette aux couleurs de l'Irlande, dont les propriétés magiques semblaient s'être un peu dissipées. Elle continuait de couiner
« Très mélette,
mais beaucoup plus faiblement, comme si elle était épuisée. Au bout d'une demi-heure, Hermione, lassée d'entendre sans cesse parler de Quidditch, se plongea à nouveau dans le livre des sorts et enchantements niveau 4 pour essayer d'apprendre le sortilège d'attraction. Neville écoutait d'un air jaloux la conversation qui faisait revivre le match de la Coupe du Monde.
« Grand-mère a refusé qu'on y aille, » dit-il d'un ton dépité. « Elle ne voulait pas acheter de billets. Ça devait pourtant être fantastique. »«
Ça fait fure, » dit Ron. « Regarde ça, Neville !»
Il fouilla dans sa malle et en sortit la figurine de Victor Krum.
« Ah ben, dis donc !»
s'exclama Neville avec envie, tandis que Ron posait la figurine au creux de sa main potelée.
« Et on l'a vu d'aussi près en vrai, » dit Ron. « On était dans la loge officielle. »«
Pour la première et la dernière fois de ta vie, Wesley. »
Drago Malfoy venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Derrière lui se tenaient Crabbe et Goyle, ses deux énormes amis à l'air patibulaire qu'il ne quittait jamais. Tous deux semblaient avoir grandi d'au moins 30 centimètres au cours de l'été. Apparemment, ils avaient entendu la conversation à travers la porte du compartiment que Dean et Simus avaient laissée entrouverte.
« Il me semble pas qu'on t'ait invité, Malfoy, »
dit Harry d'une voix glaciale.
« Wesley, qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda Malfoy en montrant la cage de coxigrue. Une manche de la robe de soirée de Ron pendait de la cage et se balançait au rythme du train, exhibant la manchette de dentelle moisie. Ron se précipita pour ranger la robe, mais Malfoy fut plus rapide. Il attrapa la manche et la tira d'un coup sec.
« Non mais regardez-moi ça !»
dit Drago Malfoy d'un ton extasié en déployant la robe de Ron pour la montrer à Crabbe et Goyle.
« Wesley, tu n'avais quand même pas l'intention de mettre ça ? C'était sûrement à la pointe de la mode en 1890, mais enfin... »«
Va te faire cuire une blouse de dragon !»
répliqua Ron, dont le teint avait pris la même couleur que la robe. Il l'arracha des mains de Malfoy qui éclata d'un grand rire, ponctué par les gloussements stupides de Crabbe et de Goyle.
« En fait, t'as l'intention de t'inscrire, Wesley ? Tu vas essayer d'apporter un peu de gloire à la famille ? Il y a aussi de l'argent en jeu. Imagine que tu gagnes, tu pourrais enfin t'offrir des vêtements convenables. »
« De quoi tu parles ?» répondit sèchement Ron.
« Est-ce que tu as l'intention de t'inscrire ?»
répéta Malfoy.
« J'imagine que toi, tu vas pas t'en priver, Potter. Tu n'auras jamais une occasion de faire le malin. »
« Soit tu nous expliques de quoi tu parles, soit tu t'en vas, Malfoy. »
dit Hermione avec mauvaise humeur en levant le nez du livre des sorts et enchantements niveau 4. Un sourire réjoui s'étala sur le visage blafard de Malfoy.
« Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant !» s'écria-t-il d'un ton ravi. « Wesley, tu as un père et un frère qui travaillent au ministère et tu ne sais même pas ? Mon Dieu, mais mon père en a parlé il y a une éternité !» C'est Cornelius Fudge qui le lui a dit. Évidemment, mon père a toujours affaire au plus haut représentant du ministère. Peut-être que ton père à toi n'est pas à un niveau suffisamment élevé pour être au courant de ces choses-là, Wesley. Hein. Oui, ça doit être ça. Il n'aborde sûrement pas de sujet important devant lui.
Avec un nouveau rire, Malfoy fit signe à Crabbe et à Goyle de le suivre et tous trois disparurent dans le couloir. Ron se leva et referma la porte du compartiment avec tant de force que la vitre se brisa.
« Ron !»
dit Hermione sur un ton de reproche. Elle sortit sa baguette magique et marmonna.
« Reparo !»
Aussitôt, les débris de verre reformèrent une vitre intacte qui reprit sa place dans le cadre de la porte.
« Celui-là, il faut toujours qu'il fasse comme s'il savait tout et les autres rien !»
grogna Ron.
« Mon père a toujours affaire au plus haut représentant du ministère. Oh. »«
Papa pourrait avoir de l'avancement quand il veut, simplement. » Ça lui plaît de rester là où il est.
Et il a bien raison,
dit tranquillement Hermione.
Ne te laisse pas faire par Malfoy.
Me laisser faire par lui. Pour qui tu me prends ?
Dit Ron en prenant un fondant du chaudron qu'il écrasa dans sa main. La mauvaise humeur de Ron persista jusqu'à la fin du voyage. Ils ne parlaient guère pendant qu'ils revêtaient leur robe de sorcier et ses yeux étincelaient encore de fureur lorsque le Poudlard Express ralentit enfin et s'arrêta enfin dans la gare de Pré-au-Lard, plongé dans les ténèbres. Quand les portières du train s'ouvrirent, un coup de tonnerre retentit au-dessus d'eux. Hermione en mitoufla, patant en rond dans sa cape, et Ron laissa sa robe de soirée autour de la cage de coxigrue. Sur le quai, la tête baissée, les yeux plissés, ils durent affronter une pluie battante. Il tombait un tel déluge qu'ils avaient l'impression de recevoir sur la tête des seaux d'eau glacée.
« Bonjour, Hagrid !» s'écria Harry en apercevant une silhouette gigantesque à l'autre bout du quai.
Oh, ça va, Harry,
lança Hagrid avec un geste de la main.
On se voit au dîner si on n'est pas noyé d'ici là.
Il était de tradition que Hagrid amène lui-même les élèves de première année au château en leur faisant traverser le lac sur des barques.
Je n'aimerais pas me retrouver sur le lac par ce temps,
dit Hermione parcourue d'un frisson. Ils avançaient lentement au milieu de la foule massée sur le quai obscur. Une centaine de diligences sans chevaux les attendaient devant la gare. Harry, Ron, Hermione et Neville furent soulagés de pouvoir monter dans l'une d'elles. La portière se referma d'un coup sec et la longue procession des diligences s'ébranla brutalement dans un grincement de roues et des gerbes d'eau le long du chemin qui menait au château de Poudlard.